Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont disponibles sur la page Radicaux Libres du site radioalpa.com. On aurait pu cette semaine vous parler de plein de choses puisque cette semaine a été très très riche en rebondissements, mais on ne peut pas vous parler de politique politicienne puisque ce week-end est un week-end d'élections pour les auditeurs du direct, des élections législatives si vous étiez sur Mars ou la Lune depuis le début juin. Alors on va vous parler de lutte sociale et écologique. Oui, c'est pas de la politique politicienne, c'est juste de la politique tout court, c'est-à-dire la vie quotidienne des ressources humaines exploité par les adorateurs du profit et la destruction des milieux de vie des humains et des autres êtres vivants, puisque nous ne sommes pas les seuls sur Terre, par les adorateurs du profit. Tiens, encore les mêmes. Alors, il s'est passé entre janvier et avril 2024. Sachez que la Direction Générale du Travail, qui travaille pour le ministère du Travail, recense 157 morts au travail. Chiffre toujours minoré par rapport à ceux de la sécurité sociale, mais pour 2024, on n'a pas encore ceux de la sécurité sociale, puisqu'ils nous font ça assez tardivement. On n'a pas encore les chiffres de 2023 pour la sécu. Pour 2022, ça donnait quand même 738. Mais pour 2024, les chiffres du ministère dépassent ceux des années précédentes. Ceux des années précédentes affichaient plutôt un par jour. C'est-à-dire, ça faisait à peu près 120 morts entre janvier et avril. Et bien là, maintenant, c'est 1,33. Et ce tiers, en plus, représente tout simplement 40 vies. 40 vies sur la période qui ont été perdues au travail. Le travail tue beaucoup en France, plus que chez nos voisins. C'est bizarre, souvent, on nous fait des comparaisons avec nos voisins pour nous dire « Mais si, il faut faire comme eux. » Et bien là, il ne faut pas faire comme eux, on ne compare pas. Il mutile aussi, oui, puisque beaucoup de gens se retrouvent à avoir des maladies professionnelles, mais aussi de ce qu'on appelle des TMS notamment, les troubles musculo-squelettiques, mais aussi perdre un membre ou perdre une fonction de leur corps, et ça rend malade, en particulier sur les chantiers et dans les usines. Et la période n'est pas propice à la fin du massacre puisque les Jeux Olympiques doivent être prêts. À propos de Jeux Olympiques, on apprend cette semaine que la prolongation de la ligne 14 du métro parisien est terminée. Ouf ! Elle permet maintenant de relier l'aéroport d'Orly à Saint-Denis. Ce chantier, c'est 8 ans de travaux. Le prolongement de la ligne 14 a été inauguré en présence d'Emmanuel Macron ce lundi 24 juin. Cette ligne 14, c'est aussi la mort de Maxime Wagner, un intérimaire de 37 ans, qui est mort en février 2020 d'un accident du travail. L'ouvrier en question était en train de déboucher une conduite pleine de béton, une conduite qui aurait dû être attachée, mais qui ne l'était pas, et qui, avec un retour, ils appellent ça un coup de fouet, l'a frappé en pleine tête. Une conduite pleine de béton qui vous tape en pleine tête, cet épisode n'a pas été rappelé dans les médias pour annoncer l'inauguration. On aurait pu vous parlez également, cette semaine, mais les autres aussi, d'un combat local contre un aménagement qui créera de la croissance artificielle et fera gagner du temps de circulation au Mans. On aurait pu vous parler des chronolignes. Souvenez-vous que cet aménagement aura pour conséquence l'abattage de plus de 400 arbres. Oh bah oui, mais on peut plus rien faire maintenant. Voilà ce qu'on peut entendre. Oh bah si on peut plus détruire une partie des arbres d'une ville, pour aménager bien sûr. Pourquoi ? Mais pour gagner du temps. On s'interroge pas pourquoi il faut gagner du temps. À un moment où les conditions climatiques deviennent de plus en plus dangereuses, notamment en ville, abattre 400 arbres, c'est peut-être se mettre encore plus en danger. Mercredi 26 juin, le collectif Arbres Bolés organiser une déambulation sur cette avenue. Pourquoi ? Eh bien, Michel, qui fait partie du collectif, nous en dit plus.
On est sur l'avenue Bolé, il est environ 12h30 ce mercredi. Et il y a quelqu'un qui est en train de regarder les arbres avec un t-shirt GNSA. Qu'est-ce qu'il peut bien faire ?
Alors, ce quelqu'un, il s'appelle Thomas Braille et c'est le fondateur justement du groupe national de surveillance des arbres. Et depuis 2020, je crois, c'est l'année où il a campé pendant 2 semaines dans un platane en face du ministère de l'Environnement pour défendre les arbres d'alignement et les surfaces naturelles en général. Il défend les arbres et nous, nous l'avons appelé afin qu'il nous donne un diagnostic de cette belle alignée, de ce bel alignement d'arbres qui doit disparaître donc au profit des chronolines. La ville, enfin les services de la ville ont déclaré que 80% de ces érables étaient dans un état très moyen, quelques-uns seulement, 20% bien portants, les autres dépérissants. Et surtout, ces mêmes services disent que dans 10 ans, tous ces arbres-là seront morts, comme s'ils avaient une boule de cristal.
Eh bien justement, on écoute ce fameux Thomas Braille qui nous présente le GNSA et puis incidemment son diagnostic sur les arbres de l'avenue Bollée qui, je le rappelle, doivent mourir incessamment sous peu.
Alors c'est GNSA, donc c'est Groupe National de Surveillance des Arbres. Et c'est une association qui est reconnue d'intérêt général par les services de l'État, une association nationale qui regroupe des lanceuses et des lanceurs d'alerte avec des groupes locaux partout en France, plus de 50 antennes en France. Et puis voilà, et des juristes et des personnes qui travaillent pour la protection des arbres et surtout des grimpeuses et des grimpeurs qui grimpent dans les arbres quand les chantiers ne sont pas justifiés, quoi.
Donc ça veut dire groupe national de surveillance des arbres. Vous les surveillez pourquoi ?
Ben, on les surveille parce que l'homme a la main, j'ai envie de dire, un peu forte sur les arbres et la main lourde. Et du coup, ben, nous on est là pour dire aujourd'hui que clairement en 2024 on ne peut plus se priver du moindre arbre. Donc après, on aura toujours besoin du bois, ça c'est encore notre débat, c'est notre question. Voilà, il y en a qui se chauffent au bois, on a des meubles, mais par contre, tout ce qui est les arbres urbains, les arbres en ville, qui ont tout leur rôle à jouer, ceux-là, en fait, c'est pas des arbres qui ont une vocation économique. Donc ceux-là, il faut vraiment les garder parce qu'ils jouent un rôle, important dans le rafraîchissement des villes, dans la décarbonation et dans l'oxygénation. Donc des sujets qui ont 60 ans aujourd'hui, si on fait rien, en fait, eh bien, on n'arrivera plus à avoir des beaux sujets comme ça parce que les étés étant de plus en plus caniculaires, les jeunes arbres qu'on plante aujourd'hui, ils meurent, en fait. Voilà.
Alors, puisqu'on est avenue Bollée, il y a l'idée pour les chronolignes de couper à peu près 200 arbres. Alors, 200 arbres sur l'avenue Bollée, mais aussi 200 autres sur d'autres chronolignes. Vous avez regardé l'état de ces arbres. Qu'est-ce que vous en dites ?
On en a expertisé 85%. Il nous en reste une dizaine à faire. Ces arbres-là, malgré le fait qu'ils aient pris quelques coups par les pare-chocs des voitures quand elles se garent, ça c'est clair. Mais en gros, on s'aperçoit qu'ils ont un bon recouvrement cicatriciel, c'est-à-dire qu'ils referment les plaies. Il y a vraiment des bourgeons latents qui sortent partout, ça veut dire qu'ils sont efficients, ils sont résilients, ils ont des belles canopées, ils sont très hauts, ils rafraîchissent. Ils ont un système racinaire fort qui leur permet de passer les étés caniculaires. Et ce ne sera pas le cas des jeunes arbres qu'on va planter aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, quoi, voilà.
Donc il est dit qu'ils sont à peu près 80%, c'est en tout cas ce qu'annonce la municipalité, 80% de ces arbres seraient à abattre parce que malades ou prêts à mourir. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, écoutez, moi je suis venu ici parce qu'on n'a pas de diagnostic de la mairie, on n'a aucune expertise, rien. Et jeter des choses comme ça, c'est regrettable. Nous, moi si je viens, c'est pour faire un diagnostic et donc c'est mon métier. Et bon, après, monsieur Le Foll, moi j'aimerais bien rentrer en discussion avec lui. Je ne suis pas là pour me braquer contre tous les maires, mais quand j'entends dire que ces arbres-là, il leur reste 10 ans à vivre, je pense que dans 10 ans, nous, on aura très chaud et que les arbres qu'on sera encore là. Donc ces arbres-là, ils vont vivre encore des centaines d'années. Ils sont encore jeunes pour 60 ans. Hein. Des arbres à 60 ans, c'est des arbres qui sont encore jeunes. Donc ils ont tout leur rôle à jouer. Et on ne peut pas sortir la boule de cristal et annoncer des choses comme ça aujourd'hui, c'est pas possible.
Eh bien, il semblerait que si. Et pourtant, l'utilité publique du projet des chronolignes a été actée après l'enquête publique et malgré les arguments des opposants. Alors, on va vous lire un petit morceau de l'introduction du livre « Inutilité publique, histoire d'une culture politique française » par Frédéric Graber, édition Amsterdam, publié en 2022. Il nous parle justement des enquêtes d'utilité publique. Ces projets sont souvent controversés, mais les débats publics auxquels ils sont soumis se concluent invariablement bien. Pour les projets qui sont déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, nous allons voir que c'est à peu près la même chose. Les opposants aux projets d'aménagement ont donc pris comme cible cette affirmation, toujours répétée de leur utilité publique en dénonçant l'inutilité de ces projets. Une expression qui a même fait son apparition au tournant des années 2010 pour qualifier le phénomène projectif dans son ensemble, qui insiste sur ce point. L'expression, c'est « les grands projets inutiles et imposés ». Or, la cible de cette dénonciation montre assez bien à quel point la notion d'utilité publique est l'objet d'un malentendu, étant comprise en un sens très général. À un premier niveau, en effet, l'utilité publique renvoie à l'idée générale de bien commun, notion très vague mais centrale pour l'exercice du pouvoir dans la plupart des sociétés. Les autorités sont censées viser le bien de tous, c'est-à-dire d'une totalité politique abstraite. Ceux qui dénoncent l'inutilité publics de tel ou tel projet soutiennent donc qu'il n'est pas utile au public. En prenant au sérieux les deux termes, le projet n'est pas utile parce qu'il n'entraîne pas parce qu'il entraîne par exemple des destructions et des dommages, parce qu'il ne répond à aucun besoin. Et il n'est pas utile au public parce qu'il privilégie certains intérêts, certains groupes et individus contre le bien de la communauté, qu'elle soit nationale ou locale. Le projet est ici un objet de désaccord, un objet politique qui appelle une réflexion sur le fond. De quoi avons-nous besoin? Quel monde voulons-nous? Et sur la forme, comment doit-on décider? Un peu plus loin, ce livre se concentre donc sur un objet paradigmatique d'une certaine culture politique française, de l'histoire qui lui a donné naissance et de la manière dont nous débattons aujourd'hui avec ses contradictions, l'enquête publique. Elle est par excellence l'outil administratif qui permet de manifester l'utilité publique sans jamais en débattre. C'est un outil extraordinaire qui répond à une mission en apparence impossible. Comment avoir l'air d'être juste alors que l'on privilégie ouvertement certains acteurs sur d'autres? Comment avoir l'air d'avoir entendu tout le monde sans tenir compte de rien? Comment produire un public consentant face à une opposition tenace? L'enquête publique réalise tout cela depuis plus de 2 siècles avec une économie de moyens remarquable, en centrant le « débat public », c'est indiqué entre guillemets, sur un enregistrement des prises de position et en conférant aux autorités publiques une curieuse forme d'omniscience. Alors de fait, à force de dire que tout est d'utilité publique et que à partir du moment où vous êtes opposant des projets, vous êtes des réactionnaires, vous voulez retourner aux cavernes et à la bougie, une partie de la population qui se bat, qui s'oppose, a décidé de passer à autre chose. En fait, là actuellement, on attend les réponses de la municipalité à propos de la mort programmée des érables de l'avenue Bollée. Parce que raser des arbres d'alignement ou raser des forêts, c'est le lot commun des aménageurs pour toutes sortes de raisons. Raser des forêts pour des champs photovoltaïques, par exemple, c'est ce qui est arrivé à Cruisse, dans les Alpes de Haute-Provence, sur la montagne de Lure. Pas toute la forêt, hein, mais quand même quelques hectares qui ont disparu en 2022 pour installer des panneaux photovoltaïques qui permettent d'avoir de l'énergie. Pourquoi a-t-on besoin de plus d'énergie? Ça, c'est pas interrogé. Ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Et de fait, de nombreux sabotages ont eu lieu. Oui, des sabotages. Soit contre les engins de chantier, durant le chantier, ou contre des installations terminées, quand elles se sont terminées. De fait, l'idée des saboteurs est que ça coûte le plus cher possible à l'entreprise. Là, en l'occurrence, c'est une entreprise canadienne, Boralex, qui est le commanditaire. Un chantier écologique, pourtant, puisque des écologues suivaient les travaux pour proposer des mesures compensatoires pour les animaux qui allaient être emmerdés, voire éradiqués. Un pis-aller polluant. Puisque par exemple, des gîtes de ponte ont été faits pour des lézards. Ces gîtes étaient composés de blocs de béton et de gaines en plastique, qui vont bien sûr se dégrader avec le temps. La destruction de milieux de vie et l'installation de solutions techniques vertes se font toujours au nom de l'écologie. C'est le même subterfuge qui fait acheter des bagnoles propres parce qu'elles fonctionnent à l'électricité. De fait, le greenwashing est très utile pour détruire. Et en plus, c'est d'utilité publique. Aussi, de plus en plus de militants se tournent vers le sabotage dont j'étais en train de parler, ni plus ni moins, pour lutter contre l'emprise de l'économie sur nos milieux. Dans le Courrier de l'Ouest du 20 juin, on peut lire ceci. Une réserve d'eau de 40 000 mètres cubes destinée à l'irrigation agricole a été dégradée volontairement à Trémentine près de Cholet, probablement au cours de la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris auprès du procureur de la République d'Angers et des propriétaires de l'équipement. Le ou les auteurs qui ont adressé un mail anonyme de revendication à la presse mardi soir ont d'abord arraché la clôture entourant la réserve en 3 endroits avant de taillader la bâche au niveau de l'eau sur la totalité du périmètre. Du coup, ben, l'eau s'est retrouvée en dehors de la bassine. Les sabotages ne sont pas une nouveauté. Si vous voulez en savoir plus, il convient de lire « Éco-sabotage », sous-titré « De la théorie à l'action », un livre de Anaëlle Châtaignier qui nous permet de savoir des choses sur cette histoire du sabotage et son influence sur les luttes écologiques depuis un certain temps. Alors, de là à passer de la théorie à l'action, attention, c'est pas du tout le message, mais dire qu'à un moment, à force de rendre tout utile et surtout de privilégier un certain nombre d'acteurs, il y a d'autres acteurs qui ne s'y retrouvent plus. Mais alors plus du tout.
J'arrête. C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le O
comme organisation. C'est l'action de s'unir pour accomplir des projets ensemble dans un but commun. Par exemple, s'organiser entre enfants pour faire une manifestation contre les abus envers les enfants et les injustices. Tout le monde peut participer. Cela commence par une idée ou un projet que l'on discute avec les autres personnes. On fait des choix et on planifie ensuite les moyens que l'on peut prendre pour le réaliser. Pour s'organiser, on n'a pas besoin de chef si on respecte chaque personne et que l'on partage également les tâches. Il va en falloir de l'organisation pour pousser nos soi-disant futurs représentants à se mettre au service de la population plutôt qu'au service de leur carrière. Bon, mais finalement, on va continuer notre petite série sur le libéralisme en parlant d'anthropologie. Allons bon, écoutez, on se retrouve juste après. La dernière fois, on avait abordé le concept de pauvreté. Vous vous souvenez, dans les anthropologues, il y a également les mêmes écoles que dans les écoles économiques, dans les écoles d'études économiques. En l'occurrence, quand on parle de l'économie, est-ce que l'on parle de l'économie formelle, que l'on appelle formaliste chez les anthropologues, c'est-à-dire une économie où finalement le but c'est l'appât du gain et la rareté des ressources avec lesquelles on doit maximiser le profit, bah ouais, c'est la philosophie libérale. Ou est-ce que c'est l'économie substantielle, comme disait Polanyi, ou alors l'école substantiviste, puisque il apparaît que l'économie a quand même pour but de produire de la nourriture, de produire des marchandises pour les utiliser, tout simplement, et pas pour les thésauriser, les accumuler et faire un maximum de profit. Ces deux écoles se retrouvent dans l'anthropologie, et donc, notre vision du monde, biaisée par l'imaginaire libéral, nous fait voir les peuples qui ne vivent pas selon les concepts libéraux du capitalisme comme pauvres. Alors, comment peut-il en être autrement pour une civilisation dont l'économie est basée sur l'appât du gain dans un contexte de rareté des ressources desquelles il faut tirer le maximum de profit? Eh ben oui, comment? C'est du moins le problème de notre imaginaire libéral. On n'arrive pas à voir comment s'organiser autrement. Seulement le concept d'abondance, qui de fait revient à l'idée de suffisant, accepte plusieurs formes, l'abondance des uns n'étant pas celle des autres. Dans un livre qui s'intitule « Âge de pierre, âge d'abondance », sous-titré « L'économie des sociétés primitives », un ouvrage synthétique de 1976, un certain Marshall Salins écrit: il y a deux voies possibles qui procurent l'abondance. On peut aisément satisfaire des besoins en procurant beaucoup ou bien en désirant peu. La conception qui nous est familière, celle de Galbraith, est fondée sur des hypothèses plus particulièrement adaptées à l'économie de marché. Les besoins de l'homme sont immenses, voire infinis, alors que ses moyens sont limités, quoique perfectibles. On peut réduire l'écart entre fin et moyen par la production industrielle, au moins jusqu'à ce que les besoins urgents soient pleinement satisfaits. Mais il y a aussi une autre voie, une voie zen, là aussi il met des guillemets, qui mène à l'abondance à partir de principes quelque peu différents des nôtres. Les besoins matériels de l'homme sont finis et peu nombreux, et les moyens techniques invariables, bien que pour l'essentiel appropriés à ses besoins. En adoptant une stratégie de type zen, un peuple peut jouir d'une abondance matérielle sans égale avec un bas niveau de vie. Tel est, je crois, le cas des chasseurs. Et ainsi s'expliquent certains aspects paradoxaux de leur comportement économique. Leur prodigalité, par exemple, leur propension à consommer en une seule fois tout leur stock, comme si les biens de ce monde leur tombaient du ciel. Ignorant cette obsession de la rareté qui caractérise les économies de marché, les économies de chasse et de cueillette peuvent miser systématiquement sur l'abondance. Ah, Allons bon. Donc l'abondance pourrait exister même si on a un niveau de vie bas. Tout dépend de ce que l'on considère comme étant des besoins. Décentrer son analyse permettrait donc de voir la présence du suffisant lorsque les libéraux ne voient que la pauvreté. Seulement, l'étude des économies de peuples dits primitifs, en gros les peuples de chasseurs-cueilleurs, que Salins appelle chasseurs-collecteurs, pâtit d'un préjugé, celui attaché à nos ancêtres préhistoriques. Le paléolithique, le vieil âge de pierre, est celui des chasseurs-collecteurs, alors que le néolithique, le nouvel âge de pierre, correspond à la mise en place de l'agriculture, qui serait donc l'évolution décisive vers la civilisation. Par ce préjugé, on compare donc des pauvres préhistoriques du paléolithique avec les peuples de chasseurs-collecteurs actuels, et ceux-ci ont donc peu de chances d'évoluer vers la qualité d'éleveurs-cultivateurs. Mais en ont-ils envie ? Seulement, ces malchanceux semblent persister dans leur volonté de ne pas devenir des civilisés. Je reprends le livre de Marshall Salins, Âge de pierre, âge d'abondance. Et là, il nous parle d'un certain Douglas Olivier, qui est anthropologue et qui s'est intéressé au CUA de Bougainville. Bougainville étant en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une île qui est juste à l'ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Prenons les Siouais de Bougainville. Douglas Olivier décrit en ces termes, qui nous sont désormais familiers, comment le travail de jardinage se heurte à divers obstacles culturels, au point que le rendement réel reste nettement en deçà des possibilités. Je cite donc Douglas Olivier, cité par Marshall Salins. Il n'y a bien entendu aucune raison physique qui interdise une augmentation du rangement. Il n'y a pas véritablement pénurie de terre et on pourrait forcer sur le travail et d'ailleurs souvent on force. Les femmes siouaient à s'affairer dans leur jardin, mais elles y déploient beaucoup moins d'énergie que certaines femmes papoues. Elles pourraient sans grand risque d'épuisement travailler plus longtemps et plus dur. Elles pourraient sans doute, mais en vertu de normes de travail différentes. Ce sont des facteurs culturels plutôt que physiques qui influent sur les normes siouais de la durée du travail. Lors de la mort d'un parent ou d'un ami, le jardinage est tabou, et ce pour une durée assez longue. Les femmes qui allaitent ne sont pas autorisées à quitter leur nourrisson plus de quelques heures par jour, et souvent pour des raisons rituelles. Le bébé ne doit pas être emmené au jardin. Outre ces restrictions rituelles portant sur les travaux de jardinage continu, interviennent d'autres limitations moins évidentes. Ainsi, on arrête tout travail à la moindre petite averse. On a coutume de partir au jardin lorsque le soleil est déjà haut dans le ciel et de rentrer à la maison vers le milieu de l'après-midi. Parfois, un ménage passe la nuit dans son jardin, dormant dans un cabanon, mais les plus ambitieux et les plus entreprenants sont seuls à se donner tant de peine et de tracas. Le Mr. Olivier en question, Douglas Olivier, est finalement de sinistre mémoire, hein, puisqu'il a aidé dans les années 1960 une entreprise minière australienne à mettre le pied sur l'île de Bougainville pour y exploiter quoi ? Ben, une mine qui détruisit une partie du milieu de vie bougainvillois. De fait, pour l'heure, il continue en nous parlant des Siouais, il explique la durée du travail chez les habitants de l'île. Je reprends. En fait, les indigènes s'enorgueillissent de leur aptitude à évaluer leurs besoins de consommation individuelle et à produire juste assez de taro. Le taro, c'est une légumineuse qui se mange. A priori, c'est pas très bon. Donc, et à produire juste assez de taro pour les satisfaire. C'est à dessein que j'écris « besoin de consommation individuelle » car le taro figure fort peu dans les échanges rituels ou commerciaux. Néanmoins, les besoins de consommation individuelle varient considérablement. La différence est grande entre la quantité de taro consommée par un homme ordinaire, possesseur d'un ou deux cochons, et un ambitieux qui en a 10 ou 20. Ce dernier doit constamment étendre ses cultures pour nourrir son troupeau qui s'accroît et se procurer les nourritures végétales qu'il prodigue dans ses festins. Ainsi est mis en pratique l'idée du suffisant. Finalement, les motivés deviendront peut-être des puissants, mais ils le seront par leur surplus de travail personnel et non pas en exploitant le travail des autres. Salins accumule les données produites par d'autres anthropologues pour nous livrer son analyse du mode de production domestique, qu'il appelle le MDP, le mode de production domestique qui caractérise les économies dites primitives. Je le cite. Durant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, le travail a signifié plus que l'outil. Les efforts intelligents du producteur ont été plus déterminants que son outillage rudimentaire. Jusqu'à très récemment, toute l'histoire du travail est celle du travail produit par une main-d'œuvre qualifiée. Seul un système industriel peut espérer survivre avec une proportion de travailleurs non qualifiés telle que nous la connaissons actuellement. Dans une situation analogue, le paléolithique aurait péri. Et les principales révolutions primitives, notamment celle qui, au néolithique, a abouti à la domestication des ressources nourricières, ces révolutions ont toutes représenté de pures victoires de la technique humaine, des relations nouvelles avec les sources d'énergie existantes, plantes ou animaux, plutôt que de nouveaux outils et de nouvelles sources d'énergie. Et lors du passage du paléolithique au néolithique, la panoplie d'outillages de la production de subsistance peut fort bien s'appauvrir dans le même temps que la production va s'accroissant. Car qu'est-ce que le bâton à fouir du Mélanésien en regard de l'attirail de pêche au phoque de l'Esquimau d'Alaska ? Jusqu'à l'avènement de la révolution industrielle proprement dite, le produit du travail humain a augmenté beaucoup plus grâce au savoir-faire de l'ouvrier que à la perfection de ses outils. Apparemment, hors de propos, ces considérations quant à l'importance des techniques humaines intéressent pourtant directement notre analyse du MDP, c'est-à-dire du mode de production domestique. De fait, la mise en pratique du suffisant fait que on n'a pas forcément besoin de développer une technique qui va ensuite vivre d'elle-même, s'auto-alimenter, comme on le verra incessamment sous peu, en travaillant sur un certain Jacques Ellul. Ainsi donc, l'idée du suffisant, la production domestique a une valeur d'usage plutôt qu'une valeur d'échange. La production sert à être utilisée par la famille et peu importe sa taille et sa composition, et non pas à être échangée pour récupérer des revenus. On continue avec Marshall Salins qui nous dit « Bref, cette caractéristique du mode de production domestique, qu'il est production de valeur d'usage, nous ramène à la sous-production, dont l'existence constatée empiriquement a fourni le point de départ de notre interrogation. Le système domestique s'assigne des objectifs économiques limités, définis qualitativement comme mode de vie plutôt que quantitativement comme richesse abstraite. Le travail, de ce fait, est peu intensif, intermittent, et tout lui est prétexte à s'interrompre. N'importe quelle activité ou empêchement culturel, depuis le rituel le plus pesant jusqu'à la verse la plus légère, l'économie dans les sociétés primitives ne se pratique pas à temps complet, ou bien elle n'engage pas la société au complet. Autrement dit, le mode de production domestique recèle un principe anti-surplus. Adapté à la production de biens de subsistance, il a tendance à s'immobiliser lorsqu'il atteint ce point. D'où il apparaît que si, par surplus, on entend cette part de la production qui excède les besoins des producteurs, le système de la maisonnée n'est pas organisé à ses fins. Rien dans la structure de la production de consommation ne l'incite à se transcender elle-même. La société tout entière repose sur cette clôture économique et donc sur une contradiction. Car à moins que l'économie domestique ne soit forcée hors de ses propres retranchements, la société tout entière périt. Économiquement parlant, la société primitive est fondée sur une anti-société. Ah bah oui, c'est de l'anthropologie. Hein. Alors du coup, même si j'ai pas tout compris, il apparaît quand même que économiquement, les peuples dits primitifs montrent une alternative à l'économie formelle des libéraux, basée sur la rareté et l'existence d'un marché où agissent des homo economicus. Le but de la vie, c'est pas de le gagner. Alors du coup, il conviendrait, nous, les civilisés, de peut-être réviser notre échelle de valeur. Bon ben voilà un beau programme. Que vous dire ? Eh ben que dimanche le 30 juin, quels que soient les résultats électoraux, l'Assemblée Générale Antifasciste de la Sarthe appelle un apéro rassemblement à 19h30 place de la République au Mans. Pourquoi ? Ben pour pas laisser la place à ceux qui pourraient fêter leur victoire, entre guillemets, comme si le vote était l'alpha et l'oméga de la politique. Et puis pour continuer à nous organiser, parce que je rappelle que l'organisation, ça risque d'être important. C'est quand ? Le dimanche 30 juin. C'est où ? Place de la République. Mais c'est à quelle heure ? Eh ben à 19h30. Sinon, le lundi 1er juillet 2024 à 19h30 à la Maison des citoyens-citoyennes, place des comptes du Maine, et il y a l'assemblée du collectif sartois des soulèvements de la Terre. Pour en savoir plus, les soulèvements de la Terre 72@riseup.net ou les soulèvements de la Terre.org pour connaître mieux le collectif en question. Sinon, la prochaine assemblée du collectif contre l'abattage des arbres sur le tracé des colonies, des chronolignes, je vais y arriver, se tiendra le jeudi 4 juillet à 18h à la Maison des citoyens, citoyennes, place des comptes du Maine à Le Mans. Voilà, on a fini. Pourquoi on a fini? Parce qu'on n'a plus le temps. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que même si n'importe qui arrive au pouvoir incessamment sous peu, on se retrouvera par exemple la semaine prochaine. C'est pourquoi je vous dis tout simplement, allez, au revoir.